Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans les coulisses du Web3, on va parler ETF Bitcoin avec Oliver. Salut Oliver.
Salut Gary.
Bienvenue dans les coulisses du Web3. Tu es CEO d'Aplo, que tu as créé en 2019. Déjà, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et me dire ce que tu as fait avant Aplo?
Ouais, bien sûr. Alors, moi, ça fait depuis 2016 que je travaille dans l'écosystème crypto et blockchain au sens large. Donc, j'ai commencé, je développais des solutions de contrats d'assurance sur la blockchain Ethereum pour une grosse compagnie d'assurance française. Après ça, j'ai travaillé sur le protocole Ethereum lui-même, en laboratoire de recherche. Et à la suite de ça, j'ai travaillé à San Francisco dans une société qui vendait des signaux de trading pour des fonds d'investissement dans le domaine des crypto-monnaies, toujours. Et j'ai fini par monter Aplo fin 2019 avec quelques connaissances d'école d'ingénieur. Et c'était mon premier travail premier travail véritable en sortie d'école, en fait. Voilà.
Ça marche. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux expliquer ce que fait Aplo?
Ouais, alors bah, tu veux la version ultra
Ouais,
simplifiée ou la version un peu plus possible?
justement, ouais, commençons par la version simplifiée, pour voilà, comme si tu l'expliquais à mes parents ou à
Ouais.
n'importe qui. Après, on rentrera un peu plus dans le vif du sujet.
Ouais, bien sûr. Alors, la version simple, c'est qu'on est une entreprise qui aide des grandes sociétés à acheter, vendre et protéger leurs crypto-monnaies, comme le Bitcoin, et tout en toute sécurité. La version un peu plus poussée, c'est qu'on est ce qu'on appelle, dans le jargon financier traditionnel, un prime broker. On est un courtier qui est spécialisé pour les clients, les gros clients, les clients institutionnels. On leur permet d'exécuter des trades un peu compliqués, souvent gros ou longs ou juste difficiles, dans le domaine des crypto-monnaies, et on sécurise l'intégralité des opérations qui vont autour.
D'ailleurs, ce que tu appelles un trade long, difficile, compliqué, en fait, c'est par exemple, je suis un institutionnel, je veux acheter par exemple, je sais pas, l'équivalent de 1 milliard en Bitcoin. Bah, disons que je suis MicroStrategy, je vais faire ma transaction sur Binance et éviter le carnet d'ordre. Voilà, l'idée c'est un peu.
Exactement. Ouais, c'est ça, exactement. Ça, c'est la base de l'exécution de trade. Il y a plein de goûts, il y a plein de saveurs pour l'exécution de trade. Donc, on a pas mal d'outils pour ça. Ce qui fait notre particularité, c'est qu'on a le droit de toucher au fond. On est une institution financière nous-mêmes, puisqu'on est enregistré à l'AMF. On gère vraiment l'opération du trade pour le client.
Ok, on reviendra plus en détail plus tard sur le
Voilà.
produit. Déjà, je trouve que c'est intéressant de comprendre comment tu as été amené à créer Aplo. Qu'est-ce qui t'a déjà, comment tu as eu l'idée tout simplement?
Alors, en fait, initialement, notre société, donc elle s'appelait Shield Market, fin 2019, et on a commencé toujours dans le segment des crypto-monnaies, toujours dans le segment des institutionnels et des professionnels, mais à l'époque, on avait construit ce qui s'appelle un dark pool. C'est tout simplement une plateforme d'échange, donc les gens peuvent venir et placer des ordres à l'achat ou à la vente, et d'autres personnes peuvent venir les remplir, les prendre, quoi. Sauf que c'est une plateforme dans laquelle personne ne voit le carnet d'ordre. En gros, tu envoies des ordres à l'aveugle. Tu espères qu'il y a peut-être une intention qui concorde avec la tienne sur cette plateforme. Et c'est très utile pour trader des grosses quantités sans révéler tes intentions au marché. On avait commencé avec ça dans les crypto-monnaies. Et rapidement, on s'est rendu compte que ce qui intéressait plus ces clients, c'était les outils basiques de routage, hein, de routage d'ordre vers des plateformes existantes. Donc on s'est dit, on va commencer avec du routage, de l'exécution. Et le dark pool, on le garde dans un coin et peut-être qu'un jour, le marché sera assez mature pour ça.
Ok. D'ailleurs, donc quand on parle de routage, est-ce que tu peux un peu expliquer, c'est par exemple, c'est des ordres que tu vas être amené à exécuter sur d'autres plateformes, d'autres exchanges centralisés, type Kraken, Coinbase.
Ouais, le routage, c'est. En fait, aujourd'hui, il y a plein de plateformes d'échange de crypto-monnaies et à tout instant, elles ne proposent pas forcément les mêmes prix parce qu'il n'y a pas les mêmes personnes qui sont dessus. Il y a plein de contraintes qui font que les gens ne mettent pas exactement les mêmes prix dessus. Nous, on est connectés partout. Et donc, on est en capacité à tout instant de profiter de ça, en fait, de récupérer les meilleurs prix disponibles sur ces plateformes-là pour que le client, dans son prix final, il ait vraiment le meilleur prix disponible. C'est comme, tu imagines, des comparateurs de vol sur un autre type de marché qui va fouiller un peu partout pour trouver le meilleur prix. Version simplifiée, c'est que c'est ça que nous, on va faire pour les cryptos.
Ok, bon, la question qui vient tout de suite en tête, c'est normalement pour faire ça, enfin si tu veux acheter des bitcoins sur Coinbase, il faut que tu aies des fonds sur Coinbase. Comment tu arrives du coup à prendre par exemple de façon immédiate le prix Coinbase? Est-ce que vous avez des liquidités un peu partout? Est-ce que c'est des liquidités au nom de Aplo ou pour chacun de vos clients?
Alors, dans ce que j'ai le droit de, dans ce que je peux mentionner en public là-dessus, on a un système de gestion d'inventaire assez intelligent. C'est pour ça que les clients viennent chez nous. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'eux, ils déposent tout simplement chez nous, d'un côté, en conservation, et que de l'autre, ils sont capables de traiter sur toutes ces plateformes-là. Nous, justement, notre sauce secrète, entre guillemets, c'est tout le système qu'on a construit qui permet justement de bénéficier des meilleurs prix instantanément sans que le client il ait à déposer des fonds sur, par exemple, Coinbase, Kraken ou Binance.
Ok. Alors, ce qui me vient en tête, hein, c'est par exemple dans l'univers de la DeFi,
Ouais.
des exchanges décentralisés, on a des agrégateurs de DEX, hein, qu'on appelle comme Paraswap, par exemple,
Bien sûr.
qui vont chercher le meilleur prix sur le meilleur DEX. Alors, il y a moins cette contrainte, hein, sur la DeFi parce que c'est toi qui fais ta propre custody, donc à tes
Bien
propres
sûr.
fonds. Là, du coup, c'est pas le cas, donc c'est votre valeur ajoutée. Donc finalement, vous êtes un peu comme un agrégateur d'exchanges centralisés qui fluidifie, on va dire, l'expérience utilisateur pour avoir bénéficié du meilleur prix, peu importe en fait l'exchange.
Alors, ça, c'était ce qu'on faisait au tout début. Il faut savoir que l'exécution de trade, ce n'est pas un concept qui est nouveau. En fait, déjà, le smart order routing, ce que tu as décrit là, c'est quelque chose qui existe en finance traditionnelle depuis plus de 20 ans, dans le marché action notamment. Et ça va un peu plus loin que trouver le meilleur prix à un instant, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si tu veux trader une grosse quantité d'un coup, même si tu prends l'échange qui a le meilleur prix à un instant, si ton ordre il est balancé sur cet échange-là, tu vas quand même faire mal au carnet d'ordre et tu n'auras probablement pas le prix auquel tu t'attendais. Donc le système, il va également morceler ton ordre en plein de petits morceaux, pas seulement à travers les plateformes d'échange, mais aussi dans le temps, pour s'assurer que du point de vue des autres personnes qu'il y a dans le marché, il n'y a rien d'anormal, tout va bien, c'est des ordres comme d'habitude. Et en fait, toi, tu es en train d'écouler tranquillement ton ordre sur ces marchés-là. Donc ça, c'est le routage, c'était la base. Maintenant, c'est un peu différent des agrégateurs de DEX, parce que l'agrégateur de DEX, il va vraiment trouver le chemin optimal pour un prix. Nous, on a des algorithmes d'exécution un peu plus compliqués, qui non seulement répartissent sur les plateformes d'échange, mais aussi vont répartir selon des métriques de marché, dans le temps, selon des métriques de volume. C'est plus, honnêtement, ça s'apparente plus à un desk d'exécution dans une banque d'investissement.
Ok, ouais, très, très clair. Et votre but, finalement, c'est un peu de transformer des ordres d'institutionnels en plein d'ordres de retail, en fait, pour se fondre dans la masse.
Tu pourrais le voir comme ça, absolument, oui. Et pas faire peur au marché, c'est ça.
Et alors, est-ce que vous faites ce qu'on appelle aussi de l'OTC, donc over the counter, donc c'est vraiment les transactions de gré à gré qui se font en dehors des carnets d'ordre publics, des exchanges centralisés?
Alors, on peut en faire avec nous, bien sûr. Il faut savoir qu'en fait, l'OTC, ça prend plein de formes. Souvent, tu vas y voir une contrepartie qui, directement derrière, va se retourner dans les marchés pour se défausser du risque qu'il vient de prendre en traitant avec toi. Donc, souvent, en fait, c'est plus une façon d'avoir un peu une certitude, une connaissance du prix que tu vas avoir en amont, plutôt qu'une manière de faire en sorte que tes fonds touchent jamais les marchés. Parce que dans la pratique, vraiment, un millième de seconde plus tard, de toute façon, ta contrepartie, elle est déjà en train d'utiliser les outils que nous on a fait en fait pour liquider sa position. Donc évidemment, s'il y a des clients qui veulent une expérience un peu plus simplifiée, avoir une sorte d'indicatif, de prix indicatif en amont et de pouvoir envoyer un ordre basé sur ce prix indicatif, transaction OTC, ça ils peuvent le faire avec nous aussi.
Ok. Et alors, la question qui vient en tête aussi, c'est comment faisaient les institutionnels avant des solutions comme Aplo? Est-ce qu'il y avait vraiment des plateformes que de gré à gré? Ou c'est pour ça aussi qu'on voyait des énormes bougies sur le Bitcoin, c'est parfois il y avait des erreurs et c'était un peu trop évident et ça perturbait les marchés, on va dire, de façon assez évidente.
Bien sûr. En fait, aussi, il faut se dire que le marché, il a évolué. Nous, on est là depuis quelques années. Et avant qu'on existe, le marché, tant en termes des échanges qui sont présents, des acteurs, la DeFi, tout était très différent. Donc, c'était même pas la même structure. Ce qui est sûr, c'est que avant nous, les gens faisaient ça plus manuellement. Alors, soit ils prenaient le risque d'essayer de traiter eux-mêmes. Voilà, ils voulaient vendre du Bitcoin, ils allaient sur un échange et puis ils disaient, bon, j'ai 5 millions à vendre, je vais le découper en plein de petits ordres et puis je vais balancer des ordres comme ça à la main et espérer que ça aille. Ce qui n'est pas une mauvaise idée hein, en soi, fondamentalement. Nous, on a des algos qui peuvent faire ça en mieux, mais c'est c'est la répartition dans le temps. Il n'y a rien de mal avec ça. Ou bien, ils vont voir des desks OTC. Les desks OTC, historiquement, c'était plutôt des firmes de trading propriétaires, en fait, ce qu'on appelle les market makers. Leur rôle, c'est à tout instant de proposer des prix à l'achat et à la vente sur un tas de plateformes d'échange. Ils tiennent les marchés. Et pour leur bénéfice, hein, leur but, c'est de te vendre à 10 et d'acheter à 9. Et donc, tu peux aller les voir avec un gros trade et puis ils vont te proposer un prix, tout simplement. Donc, la différence avec ce que nous, on fait, c'est que nous, on est, en tant que courtier, en fait, on s'oblige à fournir la transparence au client en termes de comment on a exécuté son trade. Le client, il a la garantie qu'on l'a exécuté dans les meilleures conditions possibles en trouvant les meilleurs prix possibles sur les marchés. C'est ça la grosse différence. En finance traditionnelle, ça s'appelle la best execution. C'est une grosse contrainte.
Ok, ouais, de montrer que, tout simplement, si le
Bah, le choix qui est pris, exactement. Où est-ce que tu as été exécuté au total pour savoir, ah ben non, en fait, oui, c'est pour ça que c'est un bon prix. Et pas juste, bah tiens, je te dis que c'est un bon prix, donc prends-le.
Ok. Pour revenir du coup sur la création d'Upload, donc tu disais au début, vous avez commencé par ce système de dark pool. Pourquoi vous avez commencé d'ailleurs avec ce système de dark pool? C'était un peu une intuition? C'était un besoin que vous aviez relevé dans le marché
C'était un peu une intuition, c'est-à-dire qu'on était tous avec mes cofondateurs dans l'écosystème crypto avant de monter la boîte. Ce qu'on voyait, c'est quand même, c'était assez artisanal, les méthodes de trading. On se souvient tous hein, les mouvements brusques de marché en 2017, en 2018, et alors encore pire hein, avant ça, 2014-2015. On sent que ce n'est pas du tout aussi stable que des actifs traditionnels. Et ce n'est pas juste dû au fait qu'il y a de la spéculation. On sent qu'il y a des moments où il y a un truc qui part en sucette quelque part, et ça a un impact, il y a un échange qui dévisse. Donc on se disait, ce serait bien qu'il y ait une sorte de place de marché qui soit plus adapté à des acteurs qui veulent faire de la taille. Pourquoi ça? Je pense que juste intuitivement, mes cofondateurs et moi, on est un peu plus attirés par le milieu institutionnel, B2B, voilà, gros compte, que le milieu retail. Ça, c'est juste nos affinités naturelles. Mais il faut aussi savoir qu'il y avait eu des papiers de recherche à l'époque postés sur ces sujets-là, de problèmes de liquidité dans le marché crypto, des problèmes rencontrés par les instituts.
Et d'ailleurs, j'ai l'impression que même en 2023, alors on est le 13 décembre 2023, on aurait cette interview, mais que le marché du Bitcoin est encore pas assez liquide et que parfois on peut avoir des énormes bougies parce que donc beaucoup de volatilité, parce que y a une très forte contraction peut-être entre la demande et l'offre. Je pense notamment, tu vois, quand on a cassé la zone des 30 000 dollars, on a eu d'énormes bougies. Et j'ai l'impression que c'est peut-être lié à ce que tu disais, que voilà, le manque de liquidité encore, même s'il y en a moins.
Alors, Bitcoin est relativement liquide aujourd'hui. En fait, si on regarde la valeur totale market cap des cryptos aujourd'hui, c'est un peu moins de 2000 milliards. On doit être sur peut-être 1,6 000 milliards. Je n'ai pas regardé les données aujourd'hui. Donc, c'est comparable à ce qui peut être traité sur une bourse européenne, enfin au market cap de ce qu'il y a sur une bourse européenne. Donc, ce n'est pas ridicule. Et c'est pas non plus énorme, et c'est clairement minuscule par rapport au marché des devises, hein, euro, dollar et tout. Bitcoin aujourd'hui, faut savoir que, si tu veux vendre 1 milliard de dollars de Bitcoin, tu peux carrément le faire. Il faudra passer par une mode comme la nôtre, tu peux pas le faire seul, mais tu peux le faire. Donc, tout dépend de ta notion de liquidité. Le point qui est ultra critique, et ça c'est pas que pour les cryptos, c'est qui sont les personnes qu'il y a sur le marché en fait, dans lesquelles tu vas aller traiter. Si c'est que des algorithmes, que des market makers qui proposent des très faibles profondeurs de marché, en gros, on va voir un marché qui est rempli d'ordres, ah bah super, je peux vendre à ce prix, ça c'est génial. Mais en fait, vu qu'ils sont tous sur des algos à haute fréquence, dès qu'il y a un tout petit mouvement dans les marchés, ils retirent leurs ordres. Donc le marché, il passe de plein à vide d'un coup. Là où des marchés qui n'ont pas que des market makers, mais qui ont aussi des gros institutionnels qui ont des positions qui tiennent un peu plus longtemps, bah souvent, voilà, les prix bougent un peu moins vite. Donc, je pense que c'est surtout dû au fait que la liquidité est souvent assurée par des market makers algorithmiques qui n'ont pas beaucoup d'inventaire à déployer.
Ok, intéressant.
Je ne sais pas si ça fait sens ce que je dis, mais c'est une question de la qualité en fait, des ordres qui sont dans les marchés à un instant donné.
Absolument, et c'est ça, tu mets en avant deux points importants, la profondeur de marché, mais aussi la qualité de la profondeur de marché. Quand c'est de l'algo, en fait, ça peut être, on passait de 1 à 0 d'un coup, sans transition.
Et ça peut dévisser, quoi. Les gens n'ont pas le contrôle, ça se fait en une seconde, l'algo il peut dévisser pour une raison ou une autre.
Et ça amène d'ailleurs à l'ETF Bitcoin dont on va parler après, mais qui va clairement apporter une solution à ça, parce qu'on va avoir une exposition au Bitcoin qui va être beaucoup plus, on va dire, long terme, on va dire, des fonds de pension, par exemple, qui veulent s'exposer au Bitcoin. Et là, on parle plus forcément que de market makers, mais de gros institutionnels qui veulent s'exposer au marché. Et donc ça va aussi permettre d'apporter plus de liquidité.
Bien sûr.
Pour revenir sur Upload, quand vous avez créé, comment vous avez créé Upload au tout début? Est-ce que vous aviez développé vous-même en interne? Vous avez pris des développeurs? Et après, comment vous avez fait ce switch vers la solution actuelle?
Ouais, en fait, alors, je vais préempter un peu si jamais il y a des questions après qui sont plus sur l'équipe chez Upload. Je vais en profiter pour présenter un peu qui sont mes associés, qu'on est quatre. Il y a Simon, Arnaud, Jacques et moi-même. Simon, Arnaud et moi, on se connaît depuis les bancs de l'école, mais puis on avait déjà bossé sur des projets ensemble. Jacques, c'est un ancien de la finance, donc il a notamment créé le plus gros dark pool au monde dans le marché action chez Crédit Suisse. Ce dark pool, il s'appelle Crossfinder, qui traite un pourcentage non négligeable du volume des marchés actions à travers le monde aujourd'hui. Il a également géré le trading propriétaire à la Société Générale, quand c'était encore possible de faire du trading propriétaire là-bas. Il a géré un hedge fund à New York. Il a bossé un peu à travers le globe et c'est de lui que vient l'expertise de trading dans l'équipe. Les autres cofondateurs, on a plus l'expertise opérationnelle sur les crypto-monnaies. Donc en fait, le système, comment on a commencé, on l'a construit nous-mêmes. Ça, c'est une de nos valeurs quand même, c'est que voilà, c'est notre infrastructure de trading. Là, si tu veux que ton client il aille vite, tu ne vas pas prendre une voiture disponible dans une concession, tu vas lui fabriquer une Formule 1, et puis là, il pourra vraiment aller très très vite. C'est un peu la même notion chez nous. Quand on a démarré fin 2019, on a passé pas mal de temps à juste créer les bases du système. On n'avait pas de clients. On a fait une levée de fonds. On a obtenu nos enregistrements à l'AMF. Et ça nous a amené à fin 2020. C'est à ce moment-là qu'on a eu l'enregistrement AMF et c'est à ce moment-là qu'on a pu onboarder les premiers clients. Donc il y a vraiment une phase d'un an pendant laquelle on a juste développé l'infrastructure de base. Puis pour avoir l'enregistrement et pour pouvoir rassurer les clients sur le fait qu'on pourra traiter les volumes qu'ils nous envoient, tu n'as pas de phase d'essai, quoi. Tu n'as pas de proof of concept. Donc, il faut vraiment surtester le système pour t'assurer que quand le client il démarre, c'est prêt à démarrer jour 1.
Et alors, ça m'amène à des questions. Déjà, vous avez levé combien pour cette première levée?
Nous, c'était une levée d'1 million.
Ok.
Donc, c'était en début 2020, ce qui était assez standard pour une seed à l'époque.
Ouais.
Les valos sont montés à fond après ça.
Yes. Et alors, la question que je me pose, c'est je suis un institutionnel, pourquoi je vais passer par un outil nouveau qui n'a pas de track record? Comment vous avez réussi à convaincre ces premiers clients
Ah, je vais pas te mentir, c'est l'enfer. C'est pas évident. Au début, c'est vraiment, il y a un mur, surtout pour tes premiers clients. Après ça, tu gagnes en confiance, tu as les références, enfin, c'est de mieux en mieux, mais au tout début, c'est difficile. Ce qui est sûr, c'est que nos premiers clients, c'était des crypto-natifs. On a certains de nos clients aujourd'hui les plus fidèles et des super clients, c'est des crypto-natifs. Ouais, crypto-natifs, ça ne veut pas dire que c'est des petits clients, mais tout simplement, c'est des gens voilà, qui ont monté une structure dédiée aux crypto, qui ont une appétence au risque qui est différente, une appétence à utiliser des nouveaux outils qui est différente. Mais clairement, tu vas pas, ton premier client, ça ne va pas être un fonds de pension ou un hedge fund ultra traditionnel, ça c'est clair.
Ouais, et
Donc
donc
comment tu fais pour les avoir? Bah, notre façon est ni mieux ni moins bien que d'autres. Nous, nos tout premiers clients, c'est des recommandations. En gros, mon boulot au tout début de la boîte, c'est networker, 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 m'assurer qu'il y ait des gens qui entendent parler de nous. Puis un jour, il y en a un qui nous a introduit à ces clients-là.
ok. Et d'ailleurs, c'est qui aujourd'hui aux grandes typologies de clients
Alors, on va avoir, donc c'est vrai qu'institutionnel, c'est un terme un peu générique et qui ne veut pas dire grand-chose. Dans la pratique, chez nous, on va avoir les hedge funds, donc les fonds de couverture, c'est des fonds d'investissement qui ont beaucoup de latitude sur les types d'investissement qu'ils ont le droit de faire, qui prennent souvent des risques, qui vont pas découvert, enfin, utiliser un tas de stratégies un peu sophistiquées. Ça, c'est des super clients pour nous, parce qu'ils utilisent vraiment tous les outils qu'on propose. Il va y avoir les gestionnaires d'actifs qui vont intégrer de la crypto dans leur stratégie, qui ont besoin d'un accès sécur, stable.
Et alors,
Tu vas
eux, les
avoir.
gestionnaires d'actifs, c'est vraiment dans une stratégie, j'achète et je hold.
Il y a tout, hein, pour en parler un peu après si tu veux, mais gestionnaire d'actifs, déjà, tu as deux types de droits. Tu as actifs et passifs. Les passifs, c'est comme des ETF spot, hein, l'ETF dont on parlera après, où ouais, ils achètent, ils répliquent un indice de marché. Là, ils ne font rien d'autre. Ils rééquilibrent tous les mois pour s'assurer qu'ils sont en ligne. Gestionnaire actif, on peut penser, il y a des boîtes comme CoinShares, ou il y en a d'autres hein, qui proposent aujourd'hui des fonds. C'est comme quand tu vas sur ton site de banque, en fait, hein, tu peux vraiment acheter une part dans une stratégie active. Donc là, ils vont acheter et vendre plus souvent. La différence avec le hedge fund, c'est que souvent, ça va être des stratégies qui ne seront pas, voilà, pas à haute fréquence. Hein. Ils achètent et ils vendent toutes les semaines, tous les mois, pour suivre leur modèle. Ils ne sont pas là à vendre à découvert et à emprunter pour vendre et à faire des paris d'arbitrage. C'est moins sophistiqué que ça.
Ok. Et donc
Et
la
voilà.
troisième catégorie, donc il y avait hedge fund, je
Ouais,
sais.
hedge fund, asset manager, et après les intermédiaires financiers. Donc historiquement, c'était surtout les fintechs qui proposent des produits crypto à leurs clients. Parce que ces fintechs, pour le coup, ont besoin d'un accès grossiste. C'est comme le supermarché va te vendre au détail, mais derrière, il faut qu'ils se fournissent chez les grossistes. C'est un peu la même chose. Et aujourd'hui, de plus en plus, voilà, on voit des marques d'intérêt de la part de gros acteurs comme des gros courtiers traditionnels, voire même des banques.
Ok. Très clair. Et donc, ouais, c'est marrant, chacun a un peu des besoins un peu différents. D'ailleurs, c'est quand les grands types de besoins? Donc, c'est soit tu as dit, je veux acheter et après, soit garder ma position, soit trader. Shorter aussi, donc vendre à découvert des positions. Est-ce qu'il y a d'autres besoins
On peut les classer, il y a vraiment quelques très grosses catégories. D'un côté, c'est réduction des coûts de trade, que ce soit parce que notre algorithme peut trouver un meilleur prix, que ce soit parce qu'ils bénéficient du fait que bah, on a des meilleurs prix partout vu qu'on a du volume et donc naturellement ils bénéficient de ces meilleurs prix-là en termes de frais. Il y a minimisation des risques opérationnels parce que voilà, nous c'est notre métier, on est enregistré pour ça. Le client, il n'a pas besoin de bouger ses cryptos d'un provider à un autre, d'un wallet à un autre en permanence pour faire ses opérations. Et même proposer des produits à ses clients, nous, on a toute l'infrastructure derrière pour qu'ils puissent créer des sous-comptes, des wallets voilà, pour leurs clients sans prendre de risques. La troisième catégorie, c'est ce que tu as mentionné avec le short, c'est accéder à un univers large pour les investissements. Donc, tant en termes de coins que de ce que tu peux faire avec ces coins. Quels outils d'investissement, quel type de trade tu peux faire, ce que tu peux emprunter, ce que tu peux prêter, comment tu peux trader, ce que tu peux emprunter pour trader encore plus, sur quelle base. Voilà, c'est ça les trois grosses catégories.
Et la solution qui, voilà, une question que je me pose, tu vois, c'est déjà vous, avec votre solution, on peut, en tant qu'institutionnel, donc les catégories qu'on a citées plus tôt, déposer directement son argent sur Aplo pour ensuite avoir accès au marché des cryptos. C'est ce que dépose des dollars, des euros, et après le marché s'offre à moi. Et c'est quoi en fait l'envers du décor, les problématiques rencontrées par les institutionnels? Je pense notamment peut-être à la custody, qui est un vrai sujet. Parce qu'on va dire que dans le monde de la crypto, on ne peut pas revenir en arrière sur une transaction. Une transaction, quand elle est faite. Ce n'est pas comme dans le monde bancaire où on peut revenir en arrière.
Alors, les problématiques rencontrées par nos clients, c'est bien ça que tu veux savoir. C'est typiquement, c'est à quoi est-ce qu'eux, ils font face une fois qu'ils sont en train de mettre en place leur stratégie de trading?
Ouais, en fait, je me pose la question, pourquoi, par exemple, ils font une solution comme Aplo? Alors, il y en a une des solutions, comme on a dit, c'est trouver le meilleur prix, mais j'ai l'impression que ce n'est pas que ça, c'est la partie ouais. De une, custody, c'est un vrai sujet, et de deux, la partie, on va dire, risque d'erreur humaine pendant l'exécution du trade, peut-être. Ça peut être...
Ouais, c'est un bon point. En fait, voilà, en fait tu mets le doigt sur un sujet qui est important, c'est que à chaque quand tu as un processus, à chaque étape du processus, tu peux te louper. Et donc, en fait, le client, le plus il a des étapes dans son processus, le plus il peut se louper. Et donc, voilà, on va prendre l'exemple de la conservation. Donc, oui, il faut avoir un conservateur. Si tu as un fonds, notamment, de toute façon, tu es obligé de passer par un conservateur externe. Donc, Hubert, tu confies tes crypto-actifs à ce conservateur. Et maintenant, tu as une stratégie à faire tourner. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu ressors les coins pour les mettre sur un échange. Peut-être que le conservateur, il a un partenariat avec un ou deux échanges. Peut-être que ces échanges ne proposent pas les coins que toi, tu veux traiter. Peut-être que la liquidité n'est pas suffisante. Enfin, pour un tas de raisons, ce n'est pas suffisant. Donc hop, tu te retrouves à retirer et en fait à t'ajouter des galères de transfert, des galères opérationnelles. Et après ça, bah voilà, tu as fait un tas de transferts, de trades, d'exécutions, plein de choses avec un tas d'acteurs. Bah, faut faire la compta derrière. Ça, c'est pas évident de tout récupérer. Et puis la moitié des places de marché aujourd'hui, leur back-office, ils ne marchent pas très bien. Donc tu te retrouves avec des rapports qui sont faux, ou en tout cas incomplets. En fait, tu as tout ce overhead, comme on dit en anglais, tous ces sujets techniques qui vont au mieux... ajouter du temps de travail et donc des frais, au pire, augmenter ton risque à un moment d'envoyer tes fonds à la mauvaise adresse ou d'en oublier quelque part ou de te tromper dans les frais que tu mets, de perdre plus d'argent. Donc ça, c'est pas forcément une crainte, mais c'est quelque chose que nos clients veulent éviter parce que sur les autres classes d'actifs, bah, ils n'ont pas à faire ça en fait. Ils n'ont pas une équipe qui est dédiée à ça. Les craintes, de manière générale, c'est le risque de contrepartie. C'est vraiment cette notion de quand je traite avec quelqu'un, ou avec une place de marché, ou même avec un conservateur, avec n'importe quoi, à partir du moment où j'envoie des fonds quelque part, je suis à risque que ces fonds, je ne les revois jamais. Ce risque peut être élevé ou faible, mais ça, c'est quelque chose que tous ces clients institutionnels, ils réfléchissent avec ce prisme-là, en fait. Il y a ce risque que les clients particuliers ne prennent pas forcément en compte aujourd'hui.
Ok. Et d'ailleurs, enfin, quand je suis un institutionnel, je dépose mes fonds sur Aplo, on est d'accord que c'est Aplo qui fait la custody des fonds, donc qui fait le stockage des fonds.
Ouais, donc c'est une très bonne question. C'est pour ça que nous, on est conservateurs enregistrés, en fait, auprès de l'AMF. C'est parce qu'on savait que dans le cadre du workflow avec lequel les clients vont utiliser une plateforme d'exécution, il va falloir à un moment qu'ils déposent des crypto-monnaies. Donc, on s'est dit, autant faire en sorte que ce soit aussi sécur que possible. Donc, on est conservateurs. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une technologie qui permet de sécuriser les clés, qui permettent de débloquer les crypto-monnaies des clients. Mais on a également une couche opérationnelle. Un peu comme dans une banque où il y a des étapes avant de pouvoir retirer ou faire des virements. Parfois, ils s'assurent que c'est pas frauduleux. Ils ont des logiciels qui s'assurent qu'il n'y a pas un comportement anormal ou que tout a bien été validé avant de pouvoir le faire. Nous, on a cette couche-là en plus pour éviter que le client se fasse siphonner ses fonds de manière malicieuse ou que quelqu'un dans leur société, hein, voilà, quelqu'un qui décide de se barrer avec la caisse, quoi. Enfin, voilà, nous, on a ces mécanismes-là.
Ok. Et Non, et c'est vrai que pour aller toujours cette partie que se dit, je me dis, bah, l'intérêt aujourd'hui quand tu es un asset manager, par exemple, c'est que tu vas directement déposer des monnaies fiat, donc euros, dollars, sur Aplo, et qu'après, ce qui se passe en termes de trading ne demande pas, ne requiert pas des besoins en termes de sécurité, de custody, etc. Alors qu'à l'inverse, un acteur qui passe par, enfin, qui fait tout un peu maison, c'est à lui, entre guillemets, de devoir gérer toute la custody de ses fonds. Et donc mettre en place toute une architecture pour sécuriser la gestion des fonds au sein de son entreprise.
Sécuriser la gestion des fonds, absolument. Et deuxièmement, c'est un système de gestion d'inventaire. Ça, c'est un truc propriétaire qu'on a développé nous-mêmes. C'est, tu peux en tant que client, tu peux conserver tes fonds toi-même, mais à partir du moment où tu sais que tu vas vouloir interagir avec les marchés, bah, ok, où est-ce que tu envoies tes fonds? Tu les envoies sur Binance, sur Coinbase? Ah, peut-être qu'en fait, finalement, tu dois faire un truc sur Kraken, donc tu vas les rebouger. Et donc, en fait, nous, faut voir ça comme un système sanguin. En fait, on a à tout instant voilà, des fonds qui circulent, qui bougent, qui s'assure que le client, quand il passe un ordre, bah, ça peut finir sur n'importe quel échange. Et ça, c'est une vraie galère à mettre en place quand tu es bah, un fonds d'investissement, tu n'as pas les équipes pour ça, quoi.
Ouais, et en plus, éventuellement, tu pourrais avoir de la fraude en interne si tu fais pas ce tracking.
Ah oui, le plus tu t'autorises des gens de ta boîte à faire des mouvements de fonds en eux-mêmes, bah, ouais, plus tu as le risque que même si c'est pas malicieux, hein, mais que ce soit perdu en chemin.
Ouais. Et du coup, aujourd'hui, les boîtes qui passent pas par des solutions comme Aplo, comment elles font? Elles ont plusieurs, je sais pas, elles utilisent Ledger Vault, elles ont une intégration avec Fireblocks ou directement elles déposent du cash sur Kraken ou sur Binance, elles traitent que sur
Ouais,
un
alors
exchange.
faut savoir, bien sûr, une première alternative, c'est le client qui se dit, bon, bah, flemme, en gros, hein, je vais me prendre un échange, je vais me prendre un Fireblocks ou voilà, une solution comme ça, et puis je vais me limiter dans comment je traite. Très bien, et si ça leur convient, dès qu'ils ont des besoins un peu plus faibles, ça existe, et c'est historiquement, c'était une façon de faire. Une deuxième manière de faire, c'est ce que je décrivais au début, tu as ta conservation, et puis tu traites avec un market maker, avec une firme de trading qui propose des prix. Est-ce que c'est le meilleur prix? Peut-être pas. Parfois oui, hein, mais parfois non. Mais au moins, bon, bah voilà, t'as ton prix, il est là. Et si t'es pas hyper sensible au prix final, tu veux juste faire ta stratégie plutôt long terme ou moyen terme, en gros volume, ça peut faire l'affaire. Et une troisième manière de faire qu'on a vu chez des clients qui sont sophistiqués, souvent c'est des firmes qui sont là depuis un moment, bah, c'est qu'ils choisissent d'internaliser ça, de faire ça elles-mêmes. Dans ces cas-là, c'est souvent soit des firmes de trading haute fréquence, donc qui ont un gros background technologique, soit les gros fonds de la crypto historique qui font, on les connaît, hein, du VC et de l'investissement et liquide depuis 6-7 ans et qui ont développé des grosses compétences internes là-dessus parce que de toute façon, ces firmes étaient là avant que moi ou mon concurrent en existe.
Ok, et elle préfère le faire en interne parce qu'il y a de tels efforts en jeu et que elle pense être les plus à même de faire ça et que
C'est dur de migrer un setup. En fait, en finance, migrer un setup. Plus haut niveau, tu peux te dire, dès que je migre, je prends un risque de perdre des fonds, d'une manière ou d'une autre. Tu as toujours un risque. Dès que tu changes quelque chose dans la tuyauterie, tu as des risques que de l'argent disparaisse. Donc, c'est dur pour ces boîtes-là de s'autoriser à le faire, en fait.
Ok, je vois. Aujourd'hui, vos clients, ils tradent quoi comme actif? C'est surtout Bitcoin, Ethereum, ou ils tradent aussi des alts, des coins exotiques
Alors, chez nous, c'est assez bien réparti. Il y a d'autres plateformes d'échange, une concurrente qui voit surtout Bitcoin et ETH. Nous, une grosse valeur ajoutée qu'on a, c'est notamment sur les coins qui sont un peu moins liquides. Et donc, ça veut dire que finalement, chez nous, c'est un peu plus équilibré en fait en termes de volume
Ok.
fait par les clients.
Et ouais. Je vais poser une question. Est-ce que parfois tu vas avoir des clients est-ce que vous regardez les flux de vos clients ou justement vous êtes vraiment impartial là-dessus? Par exemple, si tu as un client, je sais pas, qui fait de la manipulation de marché, est-ce que tu peux le dire non, arrête ou
Alors ouais, en fait, nous, on est obligé, on a une équipe de conformité en interne. Cette équipe conformité, elle n'a pas le droit de communiquer certaines informations au reste de l'équipe,
Ok.
compris à moi, concrètement. Ça, de toute façon, ça fait partie des engagements qu'on a avec l'AMF. Et donc, il y a un système de surveillance qui est en place, de anti-fraude, en fait. Il y a la fraude et puis il y a des risques aussi plus au sens risque financier. On va un peu séparer les deux. Mais dans les deux cas, ça veut dire qu'il y a du monitoring en place, en fait, dans le système, pour s'assurer que le client n'est pas en train de nous faire prendre un risque inconsidéré, ou qu'il n'est pas en train de faire une activité frauduleuse. Donc bien sûr, on a l'obligation en fait de monitorer et de leur dire. Mais tout le monde dans la société n'a pas le droit d'accéder à ça. Et donc à partir de là, ça devient tout simplement une question de confiance. Est-ce que le client il a confiance dans le fait qu'on gère bien nos opérations et qu'on fait pas n'importe quoi? Et nous-mêmes, notre discipline, on investit pas mal dans tout ce qui est lié à la conformité à la gestion des risques et on est audité régulièrement sur ces sujets-là.
Ok. Une dernière question avant de partir sur la partie ETF. D'ailleurs, on parle de compliance. Hein. C'est quoi la créditisation dont vous disposez aujourd'hui? J'imagine que ça a été compliqué à voir. Est-ce que ça va changer avec Mika?
Très bonne question. Aujourd'hui, on est enregistré auprès de l'autorité des marchés financiers, c'est comme la SEC en France, pour quatre services. Les services qui concernent principalement le fait de pouvoir conserver des crypto-monnaies ou le fait de pouvoir en traiter pour le client, en acheter ou en vendre pour le client, ou en acheter ou en vendre directement avec le client. Et aussi, on peut faire de l'échange en interne. C'est très utile si on a deux clients qui ont des positions compatibles. Les ordres sont mis en relation en interne et ça sort même. Donc on a, voilà, on a ces quatre services-là. Être enregistré, ça veut dire qu'on a dû déposer un dossier, on a dû répondre à des questions avec l'AMF et avec la CPR. La CPR, c'est le régulateur des banques, qui est là principalement parce qu'il gère tous les sujets autour du blanchiment d'argent. L'enregistrement, ce n'est pas un agrément, c'est un truc que je veux bien appuyer. Une société, pour dire qu'elle est régulée, il faut qu'elle ait un agrément. Un agrément, c'est une licence. En crypto, aujourd'hui, la seule société qui a un agrément, PSAN, si je ne me trompe pas, c'est SGForge, qui est la filiale de Société Générale. Il n'y a aucune autre boîte qui l'a eu, simplement parce que ce n'était pas très très clair, les exigences au moment où ça a été sorti, ce framework. Nous, on était les premiers à être PSAN, prestataire de services sur actifs numériques. Donc, on est parti sur l'enregistrement dès le début. Pour répondre à la deuxième partie de ta question sur à quel point c'était difficile, en fait, sur le papier, les attentes pour être PSAN enregistré n'étaient pas très longues. Dans la pratique, les régulateurs vont poser beaucoup plus de questions. Donc, ça, c'était plus proche de l'agrément qu'autre chose. Donc, c'était pas simple. Après, je pense que dans l'autre cas, c'était facilité par le fait qu'on a dans l'équipe un background en finance traditionnelle, notamment avec Jacques, et qu'on a un focus sur les clients institutionnels et pas les clients particuliers. Les régulateurs, ils sont surtout là pour protéger le particulier, éviter qu'il y ait de la fraude. Enfin, pour la question sur Mika, donc est-ce que Aplo, bah, son activité serait impactée par Mika? Alors oui, mais pas, enfin, plutôt de manière positive en fait. Il faut savoir que Aplo bénéficie d'un régime transitoire pour Mika, pour l'ensemble de ses services, jusqu'au premier trimestre 2026. Donc en fait, même si on attendait, pourrait attendre jusque-là pour décider d'obtenir l'agrément MiCA. De toute façon, nous, on prévoit de l'avoir avant. Mais ça veut dire que voilà, y a pas particulièrement de pression au niveau de nos activités. La deuxième chose, c'est que la loi MiCA, elle a été fortement inspirée par la loi Pacte en France, et notamment le régime SAN. Donc, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de modifications à mettre en place dans nos opérations que nous faisons en fonds propres, pour répondre aux attentes de Mika. Après, c'est plutôt au niveau des activités de nos clients et de nos opérations que ça peut changer les choses. Parce qu'il y a il y a pas mal d'incertitudes autour des stablecoins avec le régime Mika. Mais il y a aussi des aspects plus positifs autour de la protection de l'investisseur, le fait qu'il y aurait probablement des best practices qui seront plus communes chez nos fournisseurs, donc des choses en fait qui vont nous simplifier la vie. Voilà, globalement, c'est plutôt bien pour nous.
Ok. D'ailleurs, en parlant de stablecoin, tu penses que c'est vraiment réaliste? J'avais vu, je crois, une des conditions de Mika, c'était d'avoir un plafond à 200 millions de dollars journaliers pour les stablecoins dollars, il me semble. Enfin,
Ouais. Ouais, c'est marrant, c'est pour les stablecoins dollars. Mais alors, c'est si on veut faire au-dessus, faudra probablement des accréditations. C'est pas réaliste, mais j'ai envie de dire, dans la pratique aujourd'hui, bah, Tether, c'est le stablecoin le plus populaire. Tether est enregistré nulle part. Dans la pratique, c'est toujours ce truc de la réglementation, c'est bien. Et nous, c'est un axe qu'on a toujours choisi depuis le début, mais le marché crypto, ça reste un marché qui est assez retail, assez hors des sentiers battus, donc ça n'aura pas un impact immédiat, ça c'est sûr.
ouais, c'est plus pour donner une ligne de conduite long terme.
De toute façon, déjà, les stablecoins euros, ils vont avoir un cadre très strict, hein. Il faudra être bon, j'ai plus les détails exacts, donc faut pas prendre ce que je dis directement, mais voilà, des licences spécifiques.
Ouais, moi j'avais en tête deux licences ART et EMT, Asset
Ouais, c'est
Reference
ça.
Token et e-money token,
Voilà,
qui sont plutôt
exactement.
réglementés. Et quelques stablecoins européens l'ont eu, hein, mais c'est vrai que voilà. Bon, on va pas rentrer dans ces considérations-là, mais voilà, c'est tout un chantier. Je te
Ouais, c'est
propose de
clair.
partir sur un sujet palpitant qui est l'ETF Bitcoin. C'est un sujet dont on parle depuis un moment dans la sphère blockchain crypto. Ça va probablement voir le jour peut-être début janvier 2024. Tu penses que déjà ça a de bonnes chances? Déjà, peut-être est-ce que je peux expliquer le contexte Que voilà, en fait, il y a des ETF depuis un moment au niveau du Bitcoin, mais là, c'est un autre type d'ETF et que on n'a jamais été aussi proche d'avoir enfin la validation de cette ETF aux États-Unis.
Ouais, bien sûr. Alors, bah, déjà, un ETF, c'est tout simplement un fonds d'investissement qui est coté en bourse et qui permet aux investisseurs d'acheter ou de vendre des parts qui représentent un panier d'actifs diversifiés. Par exemple, des actions, des obligations, matières premières. Ici, on parle d'ETF crypto, donc c'est un panier de crypto-monnaies. La différence entre les ETF dont on entend parler aujourd'hui, les ETF spot, et les ETF qui existent déjà, c'est qu'un ETF spot, comme celui dont on parle, bah, l'émetteur de l'ETF détient vraiment des crypto-monnaies. Donc ça veut dire que derrière, il y a vraiment des crypto-monnaies qui ont été achetées pour remplir ce panier. Les ETF qui existent jusqu'à présent, c'est des ETF construits à partir de produits dérivés. Sans rentrer trop dans les détails, ça veut dire qu'en fait, à aucun moment, ce fonds d'investissement-là ne détient vraiment de la crypto-monnaie, n'est vraiment exposé aux crypto-monnaies en direct. Cet ETF aura simplement acheté des produits futurs ou des options, on dit, autour des crypto-monnaies qui ciblent, pour avoir quelque chose qui est assez proche du prix. Mais justement, la différence avec un ETF spot, c'est que comme cet ETF détient vraiment les crypto-monnaies, c'est une manière beaucoup plus économique de s'exposer à ces crypto-monnaies. Là où l'ETF fait à partir de dérivés, il y a un tas de frais implicites et explicites, de coûts implicites et explicites qui rentrent dedans.
Et ouais, est-ce que tu peux expliquer peut-être déjà c'est quoi ton avis? Est-ce que tu penses que ça a de bonnes chances de d'être validé cette fois-ci par la SEC, hein, qui est l'équivalent de l'AMF aux États-Unis?
Moi, à titre personnel, j'en ai aucune idée. Je pense que je peux même prononcer là-dessus. Si on regarde un proxy qui est intéressant, c'est les marchés de paris en ligne, des betting markets comme Polymarket. C'est les marchés sur lesquels les gens peuvent parier sur des événements. On regarde là, il me semble que alors, le pari sur une émission avant le 31 décembre 2023, donc c'est pas mi-janvier, mais c'est pas loin avant. Les betting markets, c'est plutôt 20% de chances que ça se fasse. A priori, début janvier, bon, ça ne doit pas être trop loin de ça, hein, peut-être 25. En revanche, avant mars, 80% de chances. Donc, a priori, les marchés ont l'air de croire que ça sera pendant Q1 2024.
Est-ce que tu penses que le fait que BlackRock veuille lancer son ETF, hein, BlackRock c'est le plus gros gestionnaire aujourd'hui au monde, je crois qu'ils ont ouais, plus de 9 000 milliards de dollars d'actifs en cours, est-ce que tu penses que ça a été game changer et qu'ils ont peut-être mis la pression et qu'éventuellement ils ont accumulé du Bitcoin pour, dans la prévision de la validation de cet ETF parce que...
Alors, deux parties dans la question. Le côté game changer, absolument. La finance institutionnelle, c'est ça. Une fois que tu as quelqu'un qui a bougé, les autres vont suivre. Et c'est vraiment, c'est un jeu de qui va me rassurer, en fait. C'est surtout quand on ne parle pas de hedge fund. Là, on parle de boîte. Leur jeu, c'est pas non plus d'être les premiers à faire un pari risqué dans le marché. Donc, en fait, bien sûr, BlackRock, maintenant, ça veut dire dans les conversations, tant nos conversations avec des acteurs traditionnels, mais aussi juste à travers le marché, il y a des points de référence. On peut dire BlackRock bosse avec Coinbase. Voilà, BlackRock bosse sur un ETF. Donc d'un coup, ça légitimise cette classe d'actifs. Après, bon, les instituts choisissent ce qu'ils veulent faire, mais ça légitimise la classe d'actifs. L'accumulation du Bitcoin, j'en ai aucune idée, mais pour démystifier un peu BlackRock, pour certains des viewers de l'émission, c'est vraiment pas une firme de trading qui peut faire des paris comme ça. Faut se dire, c'est des gestionnaires d'actifs, en fait, c'est plutôt des émetteurs d'ETF ou de produits comme ça. Hein, donc, vont juste représenter, ah tiens, on a des clients qui veulent s'exposer au Nasdaq, ben on va les exposer au Nasdaq avec nos fonds. Ils ne font pas à des boîtes qui pourraient accumuler du Bitcoin en ce moment. Il y en a un tas en finance traditionnelle, mais c'est plutôt dans la catégorie des hedge funds, des firmes de trading propriétaires.
Ok. Et pour toi, ça va être quoi l'impact d'un tel ETF Bitcoin pour le marché crypto? En fait, finalement, bah, il va s'ouvrir en termes de liquidité à un autre monde.
Ouais, en fait. Alors, j'ai sorti ma boule de cristal, donc ce que je dis n'a absolument aucune valeur ou légitimité en termes de prévision, mais la grosse différence entre ces ETF-là et ce qu'il y avait avant, les ETF faits sur les dérivés, ou même le fait que Coinbase soit listé il y a quelques années, voilà, ce genre d'événement-là, c'est que pour la première fois, on a un mécanisme qui permet d'ouvrir cette classe d'actifs, les cryptos, à un tas d'investisseurs qui n'y avaient pas accès jusqu'à maintenant. Parce que même les ETF faits sur des dérivés, c'est très limité en termes de clientèle. Tout ça, c'était très limité. Donc, l'ETF spot, d'un coup, ça veut dire que monsieur tout le monde, aux US en tout cas, pourra, et même en Europe aussi, hein, bientôt, pourra pourra posséder, enfin être exposé au Bitcoin ou à l'Ether dans son compte épargne, dans son compte retraite, dans les mécanismes en fait auxquels il est habitué, quoi. Et donc ça veut dire que c'est un marché adressable qui est beaucoup plus gros que le marché adressable aujourd'hui pour les crypto-monnaies.
Complètement. Et d'ailleurs, aussi, ça va exercer une pression acheteuse sur le prix du Bitcoin, dans le sens où, aujourd'hui, avec l'ancien ETF, en fait, il n'y avait pas de... Enfin, on sait qu'il y a une quantité limitée de Bitcoin en circulation. En fait, il n'y avait pas de nouveaux Bitcoins achetés, alors que là, comme c'est backé par des Bitcoins physiques, il y a achat de Bitcoin, et donc raréfaction, augmentation de la demande.
Alors, oui, en partie. Il faut savoir que quand on traite un produit dérivé avec une firme de trading ou avec un courtier, quelque part derrière, il y a du mouvement de l'actif en lui-même, mais souvent, c'est avec un ratio, quoi. C'est-à-dire que pour 1 en spot, 10 en dérivé, quoi. Donc oui, clairement, il y avait des mouvements, il y avait de la pression, mais c'était beaucoup plus négligeable. Là, il y aura de la pression. De là à pouvoir prévoir ce qui va se passer en termes de prix, c'est très difficile parce qu'il y a encore aujourd'hui un tas de facteurs qui influencent les mouvements sur le Bitcoin, notamment le fait qu'il y a des gros holdings par des whales, voilà. Il y a un tas de choses qui pourraient changer ça. Mais oui, en théorie, il y aura plus de pression acheteuse à ce moment-là, c'est sûr.
Ouais. En tout cas, ouais. C'est très possible, hein, d'ailleurs, que le lancement de cet ETF soit un peu un non-événement, parce que ça a déjà été pricé en amont par le marché, on verra. Mais voilà.
C'est également une possibilité. Même si, mécaniquement, voilà, cette pression acheteuse, il y aura un impact mécanique sur les carnets d'ordre, en tout cas pendant une période, ça c'est indéniable.
Ouais. Et est-ce que tu peux donner peut-être la proportion de ce nouveau marché adressable VS le marché actuel?
Non. Marché actuel, il y a trop de façons de le calculer parce que ce que tu considères seulement, enfin, quel c'est un investisseur qui est qualifié, mais ce qui est sûr, c'est que le marché adressable, on peut le calculer parce que ça, c'est tu peux te baser en fait sur qui historiquement achète des ETF sur des classes actives ou la type commodité ou ce genre de choses là. Et aujourd'hui, alors Galaxy Digital a fait un super papier là-dessus, ils ont décomposé cette analyse de marché, ils en déduisent que la première année seulement, ça représente 14 000 milliards de dollars de marché adressable.
Ok.
Et si on considère que environ un investisseur sur 10 dans ce marché-là va vraiment investir dans la crypto, et à hauteur de 1% du portefeuille, parce que historiquement, c'est ce qu'on voit, hein, chez les investisseurs, tout ce qui est classe d'actifs risqués, c'est qu'une petite fraction du portefeuille, bah, ça fait quand même, au bout du compte, 14 milliards de dollars d'inflow, donc d'argent investi dans ces produits ETF la première année.
Ouais, ce qui est pareil, même si...
Ce qui n'est pas rien. C'est le volume Bitcoin. Aujourd'hui, en gros, c'est 14 milliards de dollars, c'est le volume de crypto-monnaies traitées à travers les marchés en une journée.
Ouais.
Mais là, c'est pas rien parce que c'est de l'info dans un produit très particulier. Donc, c'est à zéro.
Complètement. Et c'est vrai que le prix, je pense pas que ça aurait du sens de le comparer à la market cap du Bitcoin, parce que le calcul de la market cap du Bitcoin est un peu simpliste peut-être, et parce que ça dépend de plein de critères, en fait, la profondeur de marché que tu mentionnais tout à l'heure et la qualité de cette profondeur.
Et ça, c'est l'année 1. Si tu prends l'or... Historiquement, enfin, en 2002-2003, avant les ETF d'or, la market cap en termes d'or investi, hein, donc je parle de l'or en circulation sur les marchés, pas de l'or qui a des bijoux qui sont achetés pour ces besoins-là, en fait, elle était 10 fois plus faible que celle aujourd'hui, 20 ans plus tard. On voit que l'ETF, en fait, ça a considérablement augmenté la quantité d'inflow et donc d'investissement dans ces classes d'actifs-là.
Ok. Et à l'inverse de BlackRock, hein, il y en a qui sont peut-être un peu plus pessimistes. Le CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, qui a récemment déclaré au sujet des crypto-monnaies que s'il était le gouvernement, il les fermerait. Est-ce que tu penses qu'il va continuer dans sa position ou il va faire volte-face et enfin qualifier le Bitcoin d'un actif de confiance?
Franchement, c'est difficile à dire. C'est vraiment très difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est que ces banques-là, aux US, c'est des boîtes qui sont là pour faire du business avant tout. Et à un moment, si la banque y voit un intérêt, elle se mettra à faire des choses liées aux crypto-monnaies.
Ouais.
Mon seul comparable pour cette supposition-là, qui n'a aucun autre fondement, c'est ce qui s'est passé avec notamment Citadel, le hedge fund, le CEO de Citadel qui a fortement décrit les crypto-monnaies, et pourtant Citadel qui ont investi récemment dans des boîtes crypto, en equity, qui commencent à s'exposer à ça, quoi.
Alors, je voudrais pas dire de bêtises sur JP Morgan, mais j'ai l'impression qu'ils ont peut-être aussi une cellule interne où ils font aussi... parce qu'ils ont quand même des clients auxquels ils ne veulent pas tourner le dos, donc ils investissent quand même pour le compte de leurs clients.
Oui, il y a des choses avec de l'investissement indirect, absolument. C'est ça. C'est sûr qu'ils ne font pas de spot, hein, comme on dit, ne touche pas aux crypto-monnaies, mais il y a de l'investissement indirect. C'est comme chez Goldman Sachs, aujourd'hui, on peut acheter des produits dérivés du Bitcoin, de l'Ether, un peu la même chose.
C'est qui aujourd'hui vos clients les plus connus?
Alors, malheureusement, on n'a pas vraiment le droit de mentionner les noms. Certains de nos clients, on a pu mentionner leur nom et ils sont sur notre site, mais c'est une
Ok.
petite fraction. La plupart des clients, en fait, ne veulent pas révéler tout simplement leur activité, quoi.
Et ça, c'est intéressant. Ils ne veulent pas justement révéler l'activité parce qu'ils ne veulent pas révéler le fait qu'ils traitent des cryptos ou qu'ils passent par telle plateforme, tel outil, parce qu'ils veulent juste garder un secret.
C'est plutôt le deuxième cas.
Ok.
Il y a un peu du premier cas, mais souvent, c'est plutôt le deuxième cas. C'est simplement le plus. Enfin, en fait, n'importe. Si tu sais quels outils utilise une firme d'investissement, une firme de trading, tu peux commencer à deviner les stratégies que la firme a mises en place. Et à partir de là, tu peux commencer à réfléchir à comment profiter de cette situation-là, au détriment de cet acteur.
Ok, intéressant. Et d'ailleurs, aujourd'hui, par rapport à ces différents acteurs, ouais, je pensais à un acteur comme CoinShares. Comment vous positionnez par rapport à CoinShares
Ça. On fait deux métiers vraiment différents. CoinShares, ils sont avant tout gestionnaires d'actifs, bah un peu à la BlackRock ou Blackstone aussi, hein, qui sont des beaux comparables. C'est une belle boîte, CoinShares, qui propose des produits d'investissement pour des acteurs soit particuliers, soit institutionnels. Nous, on est une étape après dans le processus. Nous, on est plus côté marché. Donc, des acteurs comme nous, on a des clients qui sont des acteurs comme CoinShares, qui vont nous utiliser quand il faut, bah, à un moment donné, bah, vraiment acheter des crypto-monnaies, quoi, ou les vendre pour équilibrer les portefeuilles de leurs fonds d'investissement.
Ok, et
Donc,
c'est intéressant.
c'est deux étapes très différentes. C'est le paquet. En fait, eux, ils font le produit, ils font l'ingénierie financière, c'est à construire des produits.
Ouais.
Et nous, on est grossistes, quoi. On fait la pipeline de. Eux, c'est la raffinerie de pétrole, nous, c'est la pipeline, on amène le pétrole. Pas forcément comparable, c'est très beau, c'est pas éco-responsable, mais ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait penser à ça avec le gaz ou l'électricité, c'est la même chose.
Ouais, bien sûr.
C'est l'acheminement, amont.
Absolument. Et en fait, CoinShares, pour créer leur produit d'investissement, ont besoin de crypto-monnaie. Et donc, ils peuvent faire appel à vous. Et donc, en fait, CoinShares, c'est un client de Aplo, potentiellement.
Ce type d'acteurs-là, les créateurs d'ETP au sens large, oui, c'est des gestionnaires d'actifs, les asset managers, ça rentre dans notre catégorie de clients prioritaires, bien sûr.
D'accord. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux expliquer la différence entre ETP et ETF
Bah, le ETF, Exchange Traded Fund, c'est une sous-catégorie d'ETP. ETP, c'est Exchange Traded Product. Les différences, ça va surtout se jouer en termes des mécanismes derrière que doit suivre le fonds. Franchement, c'est des différences qu'il y a au niveau. Voilà, c'est pas particulièrement intéressant, mais ça va notamment dicter qui a le droit d'acheter ce produit-là. Est-ce que c'est que les particuliers? Est-ce que c'est les institutionnels? Quel mécanisme il y a pour le rééquilibrage du portefeuille? Est-ce que ça contient du spot, des dérivés? C'est vraiment juste ça, quoi. C'est une catégorie large.
Ok. C'est qui aujourd'hui vos concurrents
Donc, on a des acteurs qui sont quand même principalement américains. Il y a. Coinbase a une unité qui s'appelle Coinbase Prime, bah c'est le Prime Broker de Coinbase. Il y a également FalconX, qui est basé aux États-Unis, sur la côte ouest, qui propose du Prime Brokerage de crypto-monnaie. Mais sinon, aujourd'hui, un des plus gros concurrents, ça reste le fait que le client tente de faire son propre setup à la main. Une fois sur deux, un an plus tard, ils reviennent nous voir, parce que ça n'a pas forcément fonctionné comme ils le voulaient, mais ça reste encore assez populaire aujourd'hui de tenter de faire ça à la main.
Ok. Et en Europe, vous avez un peu quartier libre pour l'instant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de concurrence.
Dans la pratique, le client, voilà, va s'il veut faire ça lui-même, peut aller voir des desks de trading ou des échanges européens et faire ça eux-mêmes. Mais en termes d'acteurs qui font ce que nous on fait, donc du prime brokerage, pas vraiment. Il y a des banques crypto, hein, en Suisse notamment, mais c'est de la banque crypto, donc tu peux acheter ou vendre un peu de crypto-monnaie. C'est fait pour plutôt des gens riches ou des family office qui ont un petit ticket à faire de temps en temps. C'est pas fait pour faire de la taille ou de la fréquence.
Et d'ailleurs, vous êtes en contact avec des banques, vous travaillez avec des banques ou c'est...
Alors, on a été approché par pas mal de banques sur les derniers 12 mois. Ça, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup, beaucoup plus d'intérêt. Beaucoup de conversations qui ont été ouvertes.
Ouais. Après, j'imagine que les banques sont peut-être un peu plus frileuses pour se lancer dans la crypto.
Ça dépend desquelles, premièrement. Et deuxièmement, ça dépend des produits. Chaque banque a un peu aussi ses sujets de prédilection, donc a une approche différente par rapport aux crypto-monnaies. Leur question pour elles, en fait, c'est tout simplement comment elles vont augmenter leur business grâce à ça. Et donc, en fait, elles vont se baser sur leur point fort historique. Donc, ce n'est pas les mêmes conversations dans les différents cas.
Et d'ailleurs, pour l'ETF Bitcoin, je me demandais, est-ce que les clients d'Aplo pourront acheter cet ETF s'il est légalisé via Aplo
Alors, bah, ça reste, en fait, ça reste un ETF, c'est une action.
ou...
En fait, c'est dans le marché action, finalement. Donc, en fait, nous, on ne traite pas d'actions. Nous, on ne fait que des actifs digitaux.
Okay.
Donc, justement, les gens pourront acheter l'ETF, en revanche, via, imaginons que ce soit listé un peu partout, via ton courtier classique, BNP,
yes.
Tant qu'il l'autorise.
Mais vu que vous êtes focus sur les cryptos, est-ce que vous ne diriez pas, tiens, on va quand même accepter cette catégorie pour justement proposer des actifs digitaux sous n'importe quel type de...
C'est deux métiers différents. Quoi. En fait,
ouais.
L'ETF, ça va vraiment être pour des investisseurs qui veulent cette exposition ultra simplifiée.
Ouais,
ouais, c'est pas vrai. Ces acteurs-là n'ont pas vraiment de raison d'être chez nous. Nous, notre métier, c'est le fait d'être grossiste. En fait, c'est un bon point de dire, tu peux être courtier. Alors, dans les grosses banques, le prime brokerage, c'est multi-actif. Clairement, il y a des banques qui arrivent à tirer leur épingle du jeu en étant multi-actif. Et ça marche parce que c'est des JP Morgan, des Morgan Stanley, qui ont des décennies d'histoire et de confiance client, qui ont un bilan incroyable, qui ont énormément de fonds, de capacités. Donc, ça fait sens de diversifier parce qu'à ce moment-là, tu as confiance dans le fait que tu peux tout faire chez quelqu'un. Et si un acteur comme nous vient et dit « je peux tout faire », le client, il n'a pas forcément confiance. Donc, on préfère rester sur une spécialité spécifique et montrer qu'on est bon dedans.
Ok, ouais, intéressant. Autre question que je me posais, enfin, forcément, vous avez rencontré des difficultés depuis le début d'Aplo. Ça a été quoi les plus grosses galères ou difficultés ou erreurs, échecs rencontrés?
Alors déjà, je dirais, et ça c'est une remarque, c'est marrant parce que en fait, quand on a monté la boîte, moi je sortais d'études, donc même si j'avais déjà travaillé dans l'écosystème crypto avant, c'était la première fois que j'étais vraiment confronté à des sujets plus corporate, notamment tout ce qui est lié aux ventes et aux levées de fonds. Ça, on n'est jamais vraiment préparé à ça, à moins de les faire une première fois. Et au tout début, je passais quand même beaucoup de temps à discuter avec ce que je pensais être des clients potentiels sans obtenir de résultats concrets. En fait, on pense souvent que ces discussions peuvent conduire à une vente parce que les gens disent « Ah, mais on se reparle la semaine prochaine, mais je vais amener le mec du trading, je vais amener le directeur à côté innovation, non, mais c'est super intéressant. » Puis en fait, tu te rends compte que tu parles, tu fais des sessions et puis au bout du compte, il n'y a plus rien. Quoi. Et puis, ils ont juste aspiré la connaissance. Et en fait... Entre-temps, nous, on a mis en place une méthode de qualification efficace au processus de vente. Donc maintenant, c'est très facile de reconnaître quand il y a un prospect qualifié, en fait, un compte client potentiel qui se présente et quand ce n'est pas le cas, quand ce n'est pas vraiment qualifié, quand en fait, on sent que ça va être une perte de temps. C'est très facile pour nous d'identifier ça. Ça nous a coûté mais vraiment du temps et même de l'énergie mentale, des fausses joies. Et ça, c'est valable pour les ventes, mais c'est aussi valable pour les levées de fonds. J'ai fait deux levées de fonds. Je peux te dire que je n'avais pas la même attitude entre les deux levées de fonds. Pas les mêmes réflexes. La deuxième erreur, je pense qu'on n'a pas mis le pricing assez haut sur certains clients au début. Mais bon, c'est facile à dire maintenant, au début, ouais. T'es déjà content que t'aies enfin quelqu'un qui signe.
C'est
franchement, voilà, c'est surtout dans ta première boîte, je pense que c'est normal et voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que avec cette expérience rétrospective, non, t'es légitime. Tu proposes un service, les gens viennent pour un service s'ils sont pas prêts à payer, c'est qu'en fait, ils voient pas la valeur dans le service et ils s'en serviraient pas de toute façon.
Après, c'est peut-être ces premiers clients qui étaient OK d'utiliser la solution parce que c'était pas cher, qui ont après ramené les autres clients parce que ça a généré l'attraction.
Exactement. Tout n'est pas mauvais. Tout n'est pas mauvais. Notamment pour certains. C'est pour ça que je dis sur certains clients.
Ouais.
Pas tous.
OK. Ouais. Et la deuxième levée, d'ailleurs, vous avez levé combien
Là, c'était 10 millions.
10 millions.
Et le lead, c'était Atomico, qui est un fonds d'investissement assez réputé.
OK. On va bientôt conclure cet échange, Olivier. Je me demandais, c'est quoi ta vision de l'écosystème crypto pour les prochaines années?
Un peu la continuation de ce qu'on voit en ce moment. On a pas mal d'acteurs institutionnels du monde financier qui entrent et qui commencent à construire des produits de finances traditionnelles en exploitant soit des blockchains publics, soit même des crypto-monnaies. Et je pense qu'on va avoir un peu une hybridisation, c'est-à-dire qu'on va pas, sur les quelques prochaines années, je vois mal tous les marchés financiers passer sur Ethereum ou Solana, mais je vois bien des produits de prêts ou d'emprunt, produits de rendement, des bonds, ouais, pas mal de choses passées sur des blockchains publics, comme on voit déjà aujourd'hui, et plus de banques proposer des produits qui n'ont rien à voir avec les cryptos, mais derrière, qui vont exploiter soit des crypto-monnaies, soit des mécanismes de blockchain pour fonctionner. Ce sera minoritaire, ce sera pour des clients très spécifiques, mais ce sera mieux que ce qu'on a aujourd'hui, en tout cas. Ça, je dis horizon 3 ans, max.
Ok. Et d'ailleurs, est-ce que tu penses que Ethereum a gagné le game sur, justement, la partie... pour le monde institutionnel où c'est pas encore gagné, tu vois, je voyais la
personne n'a rien gagné encore aujourd'hui.
Ouais.
En vrai, c'est très tôt. Enfin, t'as pas vraiment de réseau majeur, que ce soit les réseaux bancaires, des réseaux de paiement ou autres, qui ont fait leur choix aujourd'hui. qui ont fait un vrai choix. Hein. Je ne parle pas d'une proof of concept, mais je parle d'un vrai choix où ils ont switché toute leur infrastructure dessus. Donc, bien sûr que statistiquement, Ethereum a le plus de chances de gagner la course parce qu'aujourd'hui, ils sont en première position. Mais on sait tous que ce n'est pas les premiers, en termes d'arrivée dans le marché, qui gagnent toujours. Donc, ça peut changer.
Ok. Et d'ailleurs, au niveau des assets de la vraie vie, hein, les real world assets, est-ce que tu penses que pareil, c'est quelque chose qui va renforcer l'adhésion des institutionnels pour les cryptos?
Oui, de plein de façons. Je sais pas, c'est tout un débat, ça d'ailleurs, mais déjà, en fait, faut se dire que ces instits, c'est beaucoup de politique, notamment les banques ou les gros asset managers, il y a beaucoup de politique en interne. Et donc, c'est plus simple de convaincre les gens quand tu dis, mais on va explorer un truc autour de la tokenisation et à l'intérieur, tu cales à la fois les sujets de digital assets et les sujets real world assets, que de dire qu'on va faire du trading de Bitcoin, parce que ça, politiquement, ça passait pas trop. Donc en fait, rien que de ce point de vue-là, déjà, ça a beaucoup aidé à débloquer des sujets en interne chez ces gros instituts-là. Après, en termes de marché adressable, c'est pas notre secteur, c'est pas notre spécialité. Je connais les VC qui pensent que ça va décoller, je connais aussi les VC qui pensent que c'est une perte de temps, donc c'est un peu difficile à dire.
Ok. Tu pourrais m'en dire un peu plus sur les prochaines actualités d'Aplo?
J'ai envie de dire, aujourd'hui, on est prime broker de crypto-monnaie, mais je mets les doigts comme ça parce qu'en fait, on reste un petit acteur. Si tu compares ça à des prime brokers traditionnels dans les grosses banques, certains peuvent trouver ça assez drôle parce qu'on est tout petit. Donc, il y a un sujet pour nous de légitimation. Légitimisation, excuse-moi, je suis pas français, donc je ne sais pas forcément les bons termes, mais pour apparaître légitime aux yeux de nos clients, il faut apparaître plus solide. Que ce soit au niveau de la sécurité, des finances. Et nous, à titre personnel, chez les fondateurs d'Aplo, on considère que ça passe par choisir ses partenariats avec soin. Il vaut mieux travailler avec quelques gros partenaires bien connus que d'essayer de monter 4000 partenariats. Et donc là, les enjeux sur la prochaine année pour nous, ça va être de monter et puis, je l'espère aussi, annoncer quelques partenariats qui vraiment changent votre image de marque de dimension, quoi.
Voilà. Ok, intéressant.
Je peux pas en dire plus, mais j'espère que c'était suffisant pour le...
Yes. Et une toute dernière question, ce serait quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un aujourd'hui qui veut lancer un projet dans la blockchain?
Aujourd'hui, déjà renseigne-toi pour voir s'il n'y a pas des gens ou des équipes qui sont en train de monter quelque chose de très similaire. Parfois, il vaut mieux s'associer à un projet qui se monte que d'essayer de le pousser seul, notamment si tu n'as pas le background technique. Et sinon, le deuxième conseil que je donnerais, c'est biaisé, moi je l'ai fait, mais tant pleut quoi. Enfin, en tout cas, c'est sûr qu'aujourd'hui, il n'y a pas meilleur moment pour le tenter, parce que le plus on avance dans le temps, le moins ce sera une innovation de rupture, et donc le moins tu as un potentiel d'upside quand tu sors. Donc, si tu sens que tu as envie de le lancer, attends pas.
Complètement. Olivier, merci beaucoup, c'était top.
Merci, Gary.
Et peut-être que voilà, on aura un ETF Bitcoin au moment où cette vidéo aura déjà été publiée ou pas, on verra. Et je te dis à très vite.
Très vite, merci.